Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution ? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 24 janvier 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'exercice conjoint naval de l'Iran avec la Russie et la Chine est un signal fort aux États-Unis. De fortes explosions ont été entendues ce lundi à l'OP à Abu Dhabi. La Dessa Emirati a été activée et la situation est très confuse au Burkina Faso. Au lendemain de nombreuses mutineries, des sources parlent de l'arrestation du président. C'était les principaux titres. En voici le journal. C'est la troisième fois que Téhéran, Pékin et Moscou effectuent conjointement des exercices maritimes. La coopération de ces pays dans divers domaines, en particulier dans le domaine militaire, est vue comme le signe le plus important de l'élargissement de leurs relations stratégiques. Au demeurant, l'amélioration de la coopération militaire et la démonstration de force des trois pays dans la zone maritime de la région sont d'autres signes, et c'est une réponse appropriée aux développements nouveaux qui sont survenus dans cette zone. En d'autres termes, cet exercice conjoint véhicule un message important. Téhéran, Moscou et Pékin ont plusieurs options à adopter pour contrer la présence illégitime et injustifiable d'acteurs occidentaux, dont les États-Unis dans la région, ainsi que pour freiner leurs actes menaçants. Le commandant de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, le contre-amiral Shahram Irani, déclare que les marines chinoises et russes sont vues comme des puissances navales de renommée à travers le monde, précisant qu'aujourd'hui, leur coordination et leur coopération avec la marine iranienne sont au plus haut niveau. En marge de l'exercice hybride « Ceinture de sécurité maritime 2022 », le contre-amiral Irani a déclaré « La Chine et la Russie sont des pays qui ont leur mot à dire dans tous les domaines et sont également connus comme des puissances navales de premier ordre. L'armée de la République islamique d'Iran, en tant que puissance régionale, a eu cette dernière décennie une présence sérieuse et active dans la région et aujourd'hui, tous les efforts des trois pays dans le domaine maritime sont basés sur la garantie de la sécurité des mers. Les trois pays assurent la sécurité des mers indépendamment des pays occidentaux, souligne le commandant de la marine avant d'indiquer. La Chine et la Russie ont toutes deux participé à l'exercice avec une composition différente de celle des années précédentes, avec des navires de guerre et des destroyers, et pour cette raison, le genre d'équipement militaire et le nombre des personnes impliquées dans l'exercice sont différents. Il est à noter que l'exercice hybride « Ceinture de sécurité maritime 2022 » s'est terminé vendredi 21 janvier. De fortes explosions ont été entendues ce lundi 24 janvier à l'OP à Abu Dhabi. La Dessa Emirati a été activée. Une semaine après l'attaque de drones et au missile d'un Sarala contre les Émirats Arabes Unis, les sirènes d'alarme ont de nouveau retenti ce lundi à Abu Dhabi, activant la Dessa Emirati. La cause des explosions n'est pas encore définie, des sources d'informations officielles n'ayant toujours pas divulgué de rapport. Savary News a posté des images qui montrent une fumée épaisse au-dessus d'Abu Dhabi. Sputnik a rapporté des images à l'appui que la DSA de l'armée émiratie a été activée lundi à l'aube pour faire face à des roquettes. Les témoins disent avoir entendu au moins 4 explosions. D'autres rapports font part de la suspension des vols des avions de ligne. Une zone d'exclusion a été établie. L'attaque de ce lundi 24 janvier intervient moins d'une semaine après l'attaque de drones au missile contre Abu Dhabi et Musafa, effectuée après les mises en garde répétitives d'Ansarallah contre l'intervention des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures du Yémen. Après l'attaque de la semaine dernière, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a annoncé que des missiles et les Roadsters avaient été utilisés contre la raffinerie de pétrole à Musafa et l'aéroport d'Abu Dhabi. Peu avant, la coalition d'agression saoudo-émiratie a fait part d'une frappe au missile contre une zone industrielle à Jizan. L'agence de presse saoudienne SPA a affirmé dimanche soir qu'un missile balistique a touché une zone industrielle à Jizan. Les Houthis ont attaqué par 2 drones et des missiles balistiques des positions sur le territoire saoudien. Les 2 drones ont été interceptés et détruits par la DSA saoudienne, a prétendu SPA. La coalition d'agression affirme également que l'opération a été menée depuis Al-Jawf et qu'elle a fait au moins 2 blessés. Des sources proches d'Ansarallah n'ont rien encore exprimé. Des sources locales ont annoncé qu'un soldat américain avait été grièvement blessé lors des affrontements dans la prison d'Al-Sina dans la région de Ruwayran de la province de Saqqa dans le nord-est syrien. Le groupe terroriste Daesh a visé dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 janvier, le centre de détention Al-Sina à Saqqa, sous contrôle kurde. Les affrontements se poursuivaient ce dimanche pour le 4e jour consécutif aux abords de la prison où sont détenus environ 3500 daéchistes, dont des anciens chefs de guerre du groupe terroriste et des Français. Visiblement coordonnée, l'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée avant que des terroristes ne prennent le relais. Des membres de cellules dormantes Daesh ont surgi des quartiers environnants et affronté les forces de sécurité, ont déclaré les forces démocratiques syriennes FTS. Selon certaines sources d'information, des prisonniers ont pu s'évader. L'émeute est survenue après qu'un certain nombre de militaires américains sont entrés dans la prison pour transporter un groupe de Daesh. Au moins 39 membres des forces de sécurité kurdes, 7 civils et 77 terroristes Daesh ont été tués dans ces affrontements. Le nombre réel des morts est bien sûr beaucoup plus élevé. Mais jusqu'à présent, le bilan exact reste indéterminé et des dizaines de personnes sont portées disparues et il y a de nombreux blessés dont certains se trouvent dans un état critique. Les forces d'occupation américaines ont poursuivi le renforcement de leurs bases sur les territoires syriens et ont fait entrer des chars, des équipements militaires et des armes via le passage illégal d'Al-Walid dans la banlieue de Saqqa. Des sources locales dans la banlieue d'Al-Yaroubiya ont fait savoir qu'un convoi des forces d'occupation américaines composé de 66 véhicules, dont 35 camions frigorifiques portant à bord de matériel militaire et 25 autres transportant des chars accompagnés de 6 véhicules blindés étaient entrés dans les territoires syriens par le passage illégal d'Al-Walid venant d'Irak. Des sources ont indiqué que de nouveaux chars étaient parmi les renforts pour aider à soutenir la milice des FTS liée à l'occupation américaine dans des tentatives pour reprendre le contrôle de la prison d'Al-Sina dans la ville de Saqqa. Au Burkina Faso, la situation est très confuse au lendemain de nombreuses mutineries. Des sources parlent de l'arrestation du président. La situation était explosive ces dernières semaines entre les militaires et le pouvoir politique au Burkina Faso. Puis dimanche matin, le bras de fer a pris un nouveau tournant. Des soldats se sont mutinés dans plusieurs casernes du pays. Que réclament-ils ? Le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les extrémistes, disent-ils. En fin de journée, des tirs ont été entendus près de la résidence du chef de l'État, remarque Christian Caboret. Un hélicoptère, tout feu éteint, a également survolé le quartier de la Patois, où se situe la résidence, au moment où ont eu lieu les tirs qui, d'abord nourris, sont devenus ensuite plus sporadiques, selon des habitants du quartier. Après une brève accalmie, la tension est montée d'un cran en raison de rumeurs faisant état de l'arrestation du président Kabore, qui serait détenu dans un camp militaire de la capitale. Le gouvernement a réagi en reconnaissant ses tirs dans plusieurs casernes, démentant cependant une prise de pouvoir par l'armée. Dimanche soir, le président Kabore a décrété jusqu'à nouvel ordre, à partir de dimanche, un couvre-feu de 20h à 5h30, heure locale et GMT. L'armée somalienne a annoncé dimanche avoir déjoué un attentat à la voiture piégée et éliminé trois membres du mouvement des Shebab dans une opération sécuritaire dans la région de Galmudug. Le chef d'état-major, Odawa Yusuf Raghi, a indiqué dans une déclaration à la radio de la voix de l'armée gouvernementale que des unités de l'armée avaient réussi à déjouer un attentat à la voiture piégée qui était censé viser l'état de Galmudug, après avoir reçu des informations sur le lieu de la fabrication des explosifs, et de préciser que l'armée avait mené une opération sécuritaire contre les membres du mouvement des Shebab qui étaient en train de mettre au point les explosifs destinés à l'attentat, tuant trois d'entre eux. Depuis des années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement des Shebab. Créé au début de 2004, ce mouvement a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, l'Algérie se venge. Alors qu'au Maghreb, l'axe US-OTAN Israël se met le vent dans l'espoir de récolter la tempête, c'est l'inverse qui est sur le point de se produire. Cela fait des mois qu'Israéliens et Américains font tout pour pousser le Maroc et l'Algérie à croiser le fer, à se tirer de dessus, puisque la machine de guerre occidentale, totalement grippée au Moyen-Orient, a besoin d'une vraie poussée et que l'axe atlantique veut tirer des ruines du Grand Moyen-Orient, son Grand Maghreb. Aussi, tout au long du mois d'octobre, puis de novembre, en fin de décembre, les sionistes ont pris d'assaut la terre du Maroc au nom de la normalisation. Drones, patriotes, dômes de fer, F-16, etc. se sont défilés au royaume comme pour préparer le terrain à la guerre. Lapid a accusé Alger d'avoir allié la résistance et Gantz a signé avec ses hôtes un accord stratégique. Et ceci sans prêter l'oreille à cette rue marocaine qui criait sa haine entre Israël. Mais c'était une fatale erreur de la part de l'Empire que de croire la guerre inter-maghrébine déjà acquiescée. Certes, le gaz algérien a été coupé au Maroc et Rabat a refusé de nommer son ambassadeur à Alger tout en faisant de même à la représentation diplomatique iranienne. N'empêche que l'ambassadeur israélien à Rabat, ou ce qui est nommé comme tel, poireaute depuis un an maintenant sans que ses lettres de créance soient signées. À Tel Aviv, on commence même à douter de la viabilité des accords d'Abraham, évoque très clairement de voir les Marocains y revenir, surtout puisque les États-Unis ont faux bond et refusent de reconnaître la marocanité du Sahara. Et pourquoi le refuseraient-ils? Est-ce par l'amour pour les Algériens? Bien sûr que non. Si les Yankees refusent de remplir leur part de marché au Sahara, c'est qu'ils craignent de le faire et d'y connaître, une fois militairement engagés, le même sort qu'en Afghanistan. Un vent de résistance souffle sur le Sahara occidental, non pas pour cause d'un front polisario qui se bat contre l'occupant, mais aussi parce que les soldats et les officiers marocains se refusent eux aussi de servir sous le drapeau d'Israël, de faire couler le sang maghrébin pour les beaux yeux des criminels sionistes. Paradoxalement, la pomme de discorde qu'est le Sahara semble devenir un élément rassembleur. Mais ce n'est pas tout. À force de chercher la guerre, les Américains et les Otaniens ont fini par l'avoir, mais dans un sens inattendu, car l'Algérie n'a pas attendu que la violence vienne à sa porte. Elle l'a renvoyée au camp d'en face. entendant la main secourable au Mali, au Niger, au Sahel. L'Algérie a aidé les Maliens à avoir les moyens de leur ambition en les aidant militairement. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, post-colonialiste, une base de force d'occupation française a été vidée à coups de vie-roquette. L'axe US-Israël-OTAN est sous le choc. Un général français est tué. Pour la première fois en Afrique, la guerre, la mort change de camp.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette visite en Russie du président iranien Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi qui a effectué une visite officielle de 2 jours en Russie, à Moscou. Il a eu des réunions très importantes avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux présidents se sont entretenus de divers sujets, des relations bilatérales, des questions d'intérêt et communs, des dossiers de régionaux et des intérêts nationaux. Le président iranien Ebrahim Raisi a eu également un discours devant la Douma russe, chambre basse du Parlement de la Fédération de Russie, et lors de son intervention devant la Douma. Le président Raisi a plaidé pour le renforcement des relations entre la Russie et l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission Monsieur Bernard Cornu, un analyste politique et spécialiste des questions internationales. Monsieur Cornu, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous depuis Paris.
Depuis Paris, merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Cornu est avec moi pour cette émission depuis Paris. Et Monsieur Cornu, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un des géopoliticiens belges spécialisé des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à Bernard Cornu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Luc Michel, comme première question, quelle analyse portez-vous sur cette visite de 2 jours du président iranien en Russie, son entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine et son intervention devant la Douma russe, s'il vous plaît?
Mais les conditions dans lesquelles elle se déroule, en particulier les applaudissements nourris de la Douma lors du discours du président iranien, ça montre que l'axe stratégique Moscou-Téhéran, aujourd'hui, c'est une réalité concrète. Et le discours du président iranien est important parce que cet axe, justement, a pour cible l'hégémonisme américano-occidental. C'est important. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle géopolitique. L'époque de la toute-puissance occidentale est terminée. L'Eurasie est en marche. Et aujourd'hui, vous savez que je vais fêter l'année prochaine mes 50 années de vie engagée. J'ai vu beaucoup de défaites. J'ai vu disparaître l'Union soviétique. J'ai vu disparaître la Yougoslavie. J'ai vu disparaître l'Allemagne de l'Est. J'ai vu disparaître la Jamaïque libyenne. Aujourd'hui, au contraire, je sais que la victoire est de nouveau possible.
Bernard Cornu, quelle analyse vous portez-vous en fait sur cette visite officielle de 2 jours du président Raisi en Russie, s'il vous plaît?
Ouais, ça s'est bien passé. Et c'est assez étonnant, c'est qu'on a très peu parlé dans les médias français, très occupés surtout par l'affaire de l'Ukraine, par des discussions pour le début de la présidence française de l'Union européenne. Mais il y a eu très peu de commentaires sur cette rencontre, alors que c'est très important pour la paix au Moyen-Orient, pour trouver une solution au conflit en Syrie et aussi pour relancer l'affaire d'un gazoduc entre le Golfe, où il y a les plus grands gisements au monde, enfin de 2 pays qui ont des grandes capacités, le deuxième et le troisième dans le monde après la Russie, pour amener ce gaz jusqu'à la Méditerranée, puis ensuite l'Europe. Et ceci, effectivement, pour ménager la concurrence avec la Russie, il faut qu'en fait que ce projet soit, disons, concerté avec la Russie, l'Iran, la Syrie, l'Irak. Voilà, donc je pense qu'un des sujets, ce sujet, j'espère, a été abordé. Il est essentiel. Il est aussi essentiel pour réussir la transition énergétique en Europe, parce que pour remplacer le charbon, nous avons déjà besoin du gaz. Voilà. Et ceci a été acté récemment par la Commission de l'Union européenne.
Luc Michel, comme l'a dit Bernard Cornu, en fait, les deux présidents ont parlé de divers sujets, politique, économie, sécurité, coopération et militaire. Et en fait, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, le président Raïssi l'a souligné, et il n'y a aucune limite pour le développement des relations avec la Russie. Et le président Raïssi l'a dit également, toujours lors de cette réunion, que ces sanctions américaines ne peuvent pas constituer un obstacle à la coopération Moscou-Téhéran. Comme vous l'avez dit, Luc Michel, la victoire est de mise, en fait, de l'Iran et la Russie, à côté de la Chine et d'autres pays qui veulent, en fait, donner naissance à un monde multipolaire contre l'unilatéralisme américain. Luc Michel, n'est-ce pas?
Oui, c'est important. Il faut surtout retenir les aspects économiques. Il y a tout d'abord cette unité, ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, avec également le Venezuela, avec l'Algérie, avec la Guinée équatoriale en Afrique. Ces États producteurs de gaz et d'hydrocarbures qui veulent reprendre le contrôle du marché des hydrocarbures dont les Américains se sont emparés à partir de septembre 2015. C'est très important, comme M. Cornu l'a précisé, parce que c'est un des éléments qui vont contribuer à arracher les mains, l'Europe occidentale des mains américaines, pour la tourner vers l'Eurasie, ce qui est son domaine d'expansion naturelle. Le gaz d'Iran, le gaz de Russie, etc., c'est ce qui va permettre demain d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Il y a également le fait que tous ces aspects liés au domaine énergétique et au domaine des sanctions également vont constamment vers la dédollarisation. Les institutions financières imposées par les États-Unis en 1945, lors de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, elles ont terminé leur vie. Elles sont inefficaces, elles sont pénalisantes, elles sont dramatiques pour le peuple. Aujourd'hui, les peuples de l'Eurasie en marche. Mettre un terme. Et la politique des sanctions, pas seulement l'Europe, la Russie est également pénalisée. On n'arrête pas les États-Unis et l'OTAN de parler de sanctions. On propose actuellement du dossier de l'Ukraine. On voit également des sanctions en Afrique, au Mali, par exemple. Eh bien, toutes ces sanctions sont contre-productives parce qu'elles démontrent que l'économie globalisée occidentale est une punition pour les peuples et qu'il faut en sortir.
Bernard Cornu, s'agissant toujours en fait de cette question importante énergétique à laquelle vous, Luc Michel, en fait venez de faire allusion lors de cette rencontre entre deux présidents iraniens et russes respectivement, Ebrahim Raisi et Vladimir Poutine. Il y avait question, si vous voulez, de parler de ce projet important, ce projet phare du président russe Vladimir Poutine, ce projet d'Eurasie. Et le président Raïssi a dit que voilà, les deux pays peuvent travailler ensemble sur ce projet pour en fait accélérer le processus de la réalisation de ce projet d'Eurasie et également travailler ensemble dans le domaine d'autres organisations régionales, très particulièrement l'Organisation de coopération et de Shanghai. C'est pourquoi en fait lors de cette rencontre, Luc Michel, il a été décidé également d'activer ce corridor de coopération nord-sud, Luc Michel. Ça aussi, c'est d'une importance primordiale, n'est-ce pas?
C'est important, et parce que ça relie notamment des États qui sont victimes de l'impérialisme occidental, puisque vous savez qu'il y a déjà un corridor actuellement qui est un corridor Caracas-Téhéran-Dakar en Afrique. Et maintenant, évidemment, il faut que le second corridor qui va relier l'Iran au Proche-Orient en passant par la Syrie est très important. Comme on le voit justement, les aspects économiques qui sont justement, qui étaient le domaine hégémonique des Occidentaux, est en train de se développer. Mais ce qu'il faut souligner, c'est l'étroitesse de vue entre Moscou et Téhéran. Vous savez que au départ, Moscou et Téhéran avaient de mauvaises relations à la fin de la guerre froide. Puis, il y a eu une alliance opportuniste à propos de la guerre de Syrie. C'était une alliance qui était l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Tous les deux étaient les amis de Damas, mais ça se limitait à ça. Mais 10 ans de lutte commune en Syrie, 10 ans de lutte commune également dans plusieurs dossiers africains et méditerranéens, font qu'aujourd'hui, entre Moscou et Téhéran, c'est une alliance stratégique étroite aujourd'hui. C'est ça qui est en train de tout changer. Il y a la même chose d'ailleurs en direction de la Chine, puisque vous savez, une des choses qui ont fait que la guerre froide a été perdue par l'Union soviétique, c'est qu'à partir de 1972, la Chine communiste était l'alliée des États-Unis. C'était la visite de Kissinger et de Nixon à Pékin. Aujourd'hui, Téhéran est l'ami de Moscou et aujourd'hui Pékin est l'ami de Moscou. Et c'est une alliance qui ne sera pas séparée parce que ça repose sur une alliance géopolitique fondamentale.
Bernard Cornu, en fait, vous l'avez souligné de cet aspect en fait économique, ce volet économique de cette visite de 2 jours du président Raïssi en Russie. Luc Michel également a fait allusion, si vous voulez, à ce point, de cette décision prise par en fait les deux pays de vouloir en fait activer cette coopération nord-sud. Mais Luc Bernard Cornu, en fait, les deux pays sont également conscients du fait que pour pouvoir mener à bien leur politique en matière économique, ils devront en avoir les moyens. C'est pourquoi ils ont décidé également de renforcer leur coopération militaire, Bernard Cornu.
Bien sûr, dans ce monde d'opposition et de concurrence d'intérêts stratégiques et économiques, pour pouvoir, disons, contrer l'hégémonie américaine ou occidentale qui a été clairement évoquée, qui est connue, il faut aussi avoir les moyens de défense. Et donc, chaque pays a des programmes avec des budgets relativement importants, relativement dans chaque pays, mais qui sont en fait très faibles par rapport au budget américain de la défense, qui dépasse les 500 ou 600 milliards de dollars, et donc avec en fait un déficit budgétaire aussi. Ceci est fait sur l'abus de position du dollar. Mon collègue Luc Michel a aussi évoqué d'ailleurs la nécessité de commercer, de faire des échanges financiers et économiques dans d'autres monnaies que le dollar, ce qu'on a appelé la dédollarisation. Il est important aussi d'affaiblir le dollar, d'affaiblir la confiance dans le dollar par l'usage d'autres monnaies pour cette coopération économique, cette coopération militaire. Ceci est une évidence, mais on n'en parle pas beaucoup en Occident, où on regarde seulement des aspects assez fantasmatiques sur les problèmes de religion, le problème d'ethnie, alors qu'en fait les réels problèmes sont économiques, sont stratégiques, sont des problèmes d'hégémonie ancienne des États-Unis et de l'Occident sur le Moyen-Orient, cette amitié assez forte, cette coopération entre la Russie et l'Iran, avec aussi d'autres pays du Moyen-Orient, est très importante pour changer cette répartition du pouvoir et trouver un équilibre plus juste qui aille à nouveau vers la paix, qui nous ramène la paix dans tout le Moyen-Orient et donc aussi le développement dont toutes les populations ont besoin dans cette région.
Et est-il, Bernard Cornu, dans l'intérêt de l'Europe de rejoindre, si vous voulez, cette logique soutenue, défendue par l'Iran, la Russie, la Chine et autres pays, pour aller vers une coopération, si vous voulez, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'économie, parce que, comme vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, l'enjeu essentiel du monde, c'est désormais, si vous voulez, l'économie, c'est désormais l'énergie.
Tout à fait. Je crois sincèrement que l'Europe, même si tous les pays européens ne le comprennent pas encore, a intérêt à s'associer à cette coopération avec la Russie et avec les pays du Moyen-Orient pour le pétrole et pour le gaz, pour pouvoir contrer cette hégémonie ancienne anglo-saxonne, parce que l'Angleterre était associée aux États-Unis là-dessus. Il faut une certaine concertation, parce que si les prix du gaz étaient très élevés, c'est-à-dire en l'absence de production iranienne à cause des sanctions américaines et en partie européennes, le prix du gaz serait si élevé que les États-Unis pourraient être tentés d'essayer d'exporter du gaz liquéfié depuis l'Amérique, notamment du gaz de schiste. Certains pays le souhaitaient, certains pays voulaient faire des ports de réception de gaz liquéfié. Donc, et en fait, l'Europe n'a pas intérêt à ce que le prix du gaz soit trop élevé. Donc l'Europe a en fait intérêt à une certaine concertation et certaine concurrence modérée et avec l'apport d'une production du gaz iranien qui actuellement n'est très peu exportée, en tout cas vers l'Europe. Et cela nécessite effectivement une coopération sur un gazoduc qui a besoin d'être protégé, comme les États-Unis, la Turquie et l'Angleterre protège le grand gazoduc BTC qui a été fait depuis l'Azerbaïdjan jusqu'à un port du sud-est turc. Tous ces problèmes d'énergie nécessitent aussi une concertation sur la défense, sur la protection et des accords de coopération qui englobent, comme De Gaulle le disait, de l'Atlantique à l'Oural et au-delà jusqu'à la Chine.
Et Luc Michel, cette visite en Russie du président Raïssi, cette visite de deux jours du président Raïssi, le président Raïssi a en fait regagné Téhéran après deux jours de sa visite en Russie. Et cela intervient à un moment où, aujourd'hui même, Luc Michel, l'Iran, la Russie et la Chine ont lancé un important exercice militaire maritime.
Écoutez, on n'assure pas la paix si on ne prépare pas la guerre. Sibi pacem parabellum, disaient les Romains. C'est exact. Si on veut protéger son monde de démocratie, son monde de développement, son monde économique, il faut une armée puissante. C'est ce que les Américains ont compris. Ils ont imposé leur hégémonie mondiale sur une victoire en 1990. Mais ce qui est très important, je reviens sur la question que vous avez posée à M. Cornu, parce que la question de l'Europe occidentale, elle est fondamentale. Le géopoliticien autrichien, le général Jordis von Lausen, avait publié un livre au début des guerres de Yougoslavie et du Golfe dans les années 90. Il disait que les guerres américaines faites par les politiciens atlantistes européens étaient des guerres qui étaient menées contre les intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est ce qu'on a compris à Moscou et à Pékin. À Moscou, on défend une vision alternative de l'Europe qu'on appelle le néo-eurasisme, qui est une vision qui est née à Bruxelles au début des années 1980. C'est ce qu'on appelle la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Le but, c'est d'arracher l'Union européenne des mains des Américains. Les routes de la soie de Tsjikin, elles aboutissent aussi à Lisbonne, à Trieste, à Birmingham, à Nantes, etc. C'est le même but, c'est d'arracher l'Europe occidentale des mains américaines. Et l'un des domaines pour lequel on va réaliser cela, c'est justement d'assurer l'assurance énergétique des fonds de l'Europe, notamment avec le gaz qui vient d'Iran, qui vient de Russie, qui vient du Venezuela, et qui vient des alliés du bloc de l'Est en Afrique, d'Algérie ou encore la Guinée équatoriale.
Bernard Cornu, vous avez entendu Luc Michel, il dit voilà le but est d'arracher l'Europe occidentale aux mains des Américains. Là, j'emploie l'expression de Luc Michel, mais comment l'Europe de l'Ouest peut-elle, d'après vous, se libérer de cette hégémonie américaine et agir indépendamment, si vous voulez, des États-Unis, comme l'a dit Luc Michel, pour défendre ses propres intérêts?
Ben, d'une part, c'est une évidence, il y a un seul continent depuis l'Atlantique jusqu'à la Chine. Il y a donc une solidarité, il y a une possibilité de développement continental par des chemins de fer, comme le prévoit déjà toute seule la Chine. Mais dans les années au début du siècle, il y avait de grands projets pour faire des chemins de fer, pour, disons, associer l'ensemble de ces pays. Et c'est la guerre européenne déclenchée en 14, dans laquelle les États-Unis sont intervenus en 1917, qui a fait éclater cette solidarité, certaines connivences, certaines coopérations européennes très larges, étendues jusqu'à la Russie et au-delà, dans ces années-là d'après-guerre, de la guerre et d'après-guerre. Donc en fait, il faut revenir sur cette période dans laquelle, effectivement, c'est la suite de l'entrée des Américains dans cette guerre 1917, qu'ils sont sortis vainqueurs et qu'ils sont sortis une grande puissance, parce que tous les autres pays avaient des dettes envers les États-Unis et tous les autres pays de l'Europe, l'Angleterre, étaient affaiblis. Et les anglo-saxons ont pris ensemble position dans le pétrole irakien, et qu'ils ont contrôlé pendant très longtemps jusqu'à le pétrole aussi iranien, qu'ils ont contrôlé donc jusqu'à faire un coup d'État en 1953 et aussi après à déstabiliser l'Irak après sa nationalisation. Donc il faut revenir sur cette histoire et il faut que les efforts actuels, notamment de la France, je respecte le président Macron pour ses efforts pour essayer de maintenir des liens forts avec la Russie, de montrer que la Russie doit être une nation coopérante avec l'Europe et non pas une nation fantasmatique opposée et menaçant l'Europe. Et donc ceci s'oppose un peu au narratif américain qui date déjà de la guerre froide et qui veut imposer à l'Europe que la Russie, enfin l'ex-Union SS et la Russie aujourd'hui soient en opposition avec l'Europe. Alors peut-être qu'avec le président Biden, ce langage s'est un peu modéré. Il évite de faire des critiques trop radicales de la Russie et du président Poutine. Et il admet que la fin de l'URSS a été un grand traumatisme pour la Russie et qu'effectivement il faut aider la Russie à consolider ses relations avec les voisins sans chercher à y implanter l'OTAN. Je crois que cette idée est connue, il faut qu'elle soit acceptée par l'Europe fondamentalement. Je pense que la France, le pouvoir actuel français partage ces idées-là.
Luc Michel, une dernière question. La France peut jouer son rôle pour en fait...
Je ne pense pas du tout, au contraire. Macron, c'est une prostituée des États-Unis. Il est actuellement vent debout dans les projets d'extension de l'OTAN à l'Est. Il s'apprête à déployer des troupes en Roumanie, notamment, qui est devenue une plateforme d'agression de l'OTAN contre la Russie. Je pense que l'Europe occidentale, elle doit compter sur ses militaires, elle doit compter sur ses diplomates, elle doit compter sur ses industriels. Il y a actuellement tout un courant qui est pour l'alliance économique avec la Russie. Mais les politiciens atlantistes, eux, c'est ce qu'on appelait entre 1940 et 1944 des collabos au service des nazis. Les actuels politiciens, notamment Macron et compagnie, ce sont les collabos des Américains. Il faut se débarrasser d'eux. Et malheureusement, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. C'est justement le grand problème de l'Europe occidentale, c'est que ces gens, ils sont le résultat d'une opération de domination et d'entrisme des États-Unis. Par exemple, en tout Giscard d'Estaing, les Américains ont lancé la French American Foundation. Actuellement, Macron est un youpi de cette fondation, comme l'était l'ancien Premier ministre.
Merci beaucoup. Philippe.
Comme vous avez compris, je suis un peu plus nuancé sur l'équilibre que cherche à trouver Macron.
Merci. Un dernier mot de Bernard Cornu, très rapidement, en quelques secondes, s'il vous plaît.
Oui, comme vous l'avez compris, je suis un peu plus nuancé sur la position de Macron, qui essaye de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire essayer quand même de dialoguer profondément avec la Russie et donc écarter un peu les positions américaines et le jeu de l'OTAN. Voilà, donc
merci
les
beaucoup.
Positions, à mon avis, sont un peu plus modérées que c'est exprimé par mon collègue. Voilà.
Merci infiniment, Bernard Cornu, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et à bientôt.
Voilà Mohsen Saedi, le précurseur de la littérature rustique en Iran. Ghulam Hossein Saidi, né à Tabriz en 1935. Il étudie la psychologie, mais préfère le métier d'écrivain. Grâce à ses nombreuses pièces, il se fait d'abord connaître en tant que dramaturge. Ses pièces s'adressent à tous les publics et lui-même affirmait ne pas écrire pour une élite. C'est également un romancier créatif qui écrit des récits intéressants, comportant une analyse psychologique des gens en société. Médecin, psychologue et sociologue comme Tchekhov, il propose une analyse réaliste de ce qu'il dépeint. En 1941, après l'invasion de Tabriz par l'Union soviétique, lui et sa famille se sont enfuis dans un village. Là, Saedi est devenu fasciné par la culture de l'Iran rural. Enfant, il était un lecteur avide, particulièrement fasciné par les écrits d'Anton Tchekhov. C'est à cette époque, écrivit-il de nombreuses années plus tard, que ses yeux s'ouvrirent soudainement. En 1945, sa province natale devient une république socialiste autonome. Bien que l'État séparatiste n'ait duré qu'un an, il a temporairement instauré l'azerbaïdjanais comme langue officielle, en plus d'inspirer le jeune Saïdi. En 1953, après l'opération Ajax, le coup d'État de la CIA contre le premier ministre démocratiquement élu Mohammad Mossadegh, lui et son jeune frère ont été arrêtés et incarcérés à la prison de Shahbani à Tabriz. Ghulam Hossein Saïdi, ou Gohar Morad, grand écrivain des années 1960, a laissé derrière lui une œuvre majeure comprenant 23 pièces de théâtre, Œil pour œil, Le meilleur papa du monde, de nombreux recueils de nouvelles, Les gens en deuil du Bayal, des monographies et des scénarios, La vache, le cercle de Mina, et un roman, Canon. Toutes ces œuvres tentent de dévoiler l'ambiance qui régnait en Iran dans les années 1960-1970. Il a publié plus d'histoires au cours de la décennie et sa première pièce, Leila Jha, en 1957, sous le pseudonyme Gohar Morad. Il a également voyagé dans le sud de l'Iran, en particulier dans les régions de la côte du Golfe Persique, et a écrit de la littérature de voyage ethnographique. Dans les années 1960, la liberté d'expression a considérablement diminué en Iran. Saedi et d'autres intellectuels ont protesté contre la politique du ministère de la Culture et des Arts de 1966, forçant tous les éditeurs à demander l'autorisation de l'État pour imprimer de la littérature. En 1968, après l'échec de leur protestation, Saïdi et d'autres écrivains ont formé l'Association des écrivains iraniens. Bien que la censure de certaines de ses œuvres ait continué, Saïdi a continué à publier. En plus des drames, des histoires, des romans et des scénarios, Saïdi a participé à la publication de magazines littéraires, de revues scientifiques et a également publié 15 traductions de littérature psychologique et médicale européenne. En 1973, les éditions Amir Kabir a nommé Saïdi rédacteur en chef d'Alifpa, une magazine littéraire trimestrielle. Cependant, en 1974, le gouvernement Pahlavi a interdit le journal et Savak, le service de sécurité intérieure et le service de renseignement de l'Iran entre 1957 et 1979, a arrêté et torturé Saïdi. Ayant déjà des antécédents de pensées suicidaires, la dépression de Saïdi se profilait après sa libération de la prison Evin à Téhéran près d'un an plus tard. En 1985, après des années de consommation excessive d'alcool, Saïdi a été diagnostiqué avec une cirrhose. Il a continué à boire jusqu'à son admission à l'hôpital Saint-Antoine à Paris le 2 novembre 1985. Le 23 novembre, il est décédé avec sa femme et son père à ses côtés. Quelques jours plus tard, il a été enterré au cimetière du Père Lachaise, près de la tombe de Sader Hedayat. Dans ses récits, Saïdi met en scène le triste monde de la pauvreté envahi de superstitions, de folies et de craintes. Paysans détachés de leurs terres, intellectuels hésitants et égarés, mendiants et vagabonds vivant en marge de la société, tous sont présents dans ses œuvres qui dépeignent une société en crise et bouleversée. Il tente de décrire l'influence de la pauvreté sur la corruption de la société et l'inquiétude des hommes. La plupart des récits de Saïdi traitent de thèmes rustiques et il est d'ailleurs l'un des pionniers de ce genre en Iran. Il a créé des œuvres importantes dans ce domaine et qui sont pour la plupart le fruit de ses nombreux voyages dans le pays. De retour d'Azerbaïdjan, il écrit « Ilkheshi, les gens en deuil du Bayal, Riavé ou Meshkinshahr » et il s'inspire de son voyage au sud de l'Iran pour la rédaction des ouvrages intitulés « Les hommes de peur et la peur et le frisson ».« Les gens en deuil du Bayal » est un recueil de vie nouvelle dans lequel Saïdi décrit la vie simple des habitants d'un petit village. Il s'agit toujours du même thème ayant pour cadre un milieu rural et des gens qui y vivent. Bayal est un village pauvre et très retiré, noyé dans les superstitions. Les hommes de Bayal parlent de choses simples, de la maladie et de la famine, des vols, de l'agriculture et des amours malheureuses. La quatrième nouvelle du recueil, Des gens en deuil de Bayal, est un drame poignant traitant de l'attachement d'un homme envers son animal, qui est son bien le plus précieux. L'histoire de cette nouvelle est le thème de la vache, film réalisé par Dariush Mehrjoui, grand metteur en scène iranien. Mashtasan, l'un des habitants de Bayal, est le seul à posséder une vache. Celle-ci est donc vénérée pour le lait qu'elle donne aux habitants. Mirasan a constamment peur des habitants des villages voisins qui s'intéressent à son animal. Un jour, alors qu'il s'est absenté, sa vache meurt. Tout le village se mobilise pour essayer de lui cacher la terrible nouvelle en s'efforçant de lui faire croire qu'elle s'est sauvée. Mais Mashtasan n'est pas dupe et sait qu'elle n'irait nulle part sans lui. Il commence donc à perdre la raison et ce malgré le soutien de ses amis. Il croit être devenu une vache. Ses amis l'enchaînent et décident de l'emmener à la ville pour le faire soigner. En chemin, il s'enfuit. Mashtasan aime sa vache, mais cet amour découle de raisons économiques et financières. Pour un pauvre paysan, l'achat d'un tel animal est généralement l'investissement de toute une vie, ce qui explique tous les soins qu'apporte Hassan à sa vache pour la maintenir en bonne santé et la protéger des pillards qui ne cessent de rôder autour de son village. Quand la vache meurt, Mashtasan se réfugie dans ses rêves pour oublier ses douleurs. Il sombre dans la folie. L'amour qu'il éprouve pour sa vache le mène à recréer la vache en lui-même. Il devient une vache pour se croire vainqueur. Saïdi fait preuve d'un grand talent dans la description des rêves et des cauchemars des habitants de cette région étrange, Bayal. L'ironie noire et piquante de l'auteur se révèle dans les moments où un événement imprévu change la vie monotone des villageois. Ceci amène le lecteur à découvrir les croyances bizarres et la réalité de la vie de ces hommes.
Thank you.